VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour le monde, aujourd'hui VOA Afrique, édition du lundi 29 novembre 2021. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Michel Joseph.
Nous commençons par les titres.
Le nouveau variant Omicron se répand sur la planète alors que l'Afrique du Sud et l'OMS réclament des frontières ouvertes.
En République démocratique du Congo, 22 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un camp de déplacés en Ituri.
Et la RDC autorise l'armée ougandaise à traquer les rebelles ADF sur son territoire.
Sommet Chine-Afrique, le Sénégal souhaite un soutien de Pékin au Sahel face à l'insécurité créée par les groupes djihadistes.
Ne manquez pas notre page sport avec Élisée Oumpatine.
Pour l'instant, le journal.
Covid-19, le nouveau variant Omicron, identifié jeudi en Afrique du Sud, se répand dans le monde, poussant plusieurs pays à fermer leurs frontières aux voyageurs étrangers. Londres convoque ce lundi une réunion d'urgence des ministres de la Santé du G7. L'OMS a appelé les pays à ne pas fermer leurs frontières. Nathalie Barge.
Le variant est notamment présent en Israël, en Australie, au Botswana, à Hong Kong et dans plusieurs pays d'Europe. Aux États-Unis, les frontières sont fermées à partir d'aujourd'hui aux voyageurs venant de 8 pays d'Afrique australe. Israël a interdit depuis hier l'entrée des étrangers sur son territoire. Les Philippines ont suspendu les vols en provenance de pays où le variant a été détecté. L'Arabie Saoudite a allongé la liste des pays avec lesquels elle suspend ses liaisons et le Koweït et le Qatar ont annoncé des restrictions envers plusieurs pays africains. Les autorités marocaines suspendent tous les vols directs de passagers à destination du Maroc pour 2 semaines à partir de 23h59 ce lundi. Hier, l'Angola est devenu le premier pays d'Afrique australe à suspendre ses vols dans la région. Au Botswana, le ministre des Affaires étrangères, Lemogang Kwape, sans citer l'Angola, a plaidé pour la solidarité régionale, disant qu'il ne fallait pas politiser ce virus. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé les pays ayant imposé des restrictions de voyage à les lever, les jugeant dépourvus de justifications scientifiques. Le nouveau variant a été classé préoccupant par l'OMS, qui a toutefois déconseillé les restrictions de voyage.
Ajoutons que le Japon referme ses frontières à tous les visiteurs étrangers à cause du variant Omicron.
En République démocratique du Congo, 22 civils ont été tués hier dans une nouvelle attaque contre le camp de déplacés d'Ivo en Ituri, dans le nord-est du pays, moins d'une semaine après une attaque similaire ayant fait 29 morts sur un site voisin. Selon l'AFP, Mambo Bapu Manse, coordonnateur de la Croix-Rouge de Djougou, en Ituri, accuse les miliciens du groupe Codeco, coopérative pour le développement du Congo, d'être responsables de cette attaque. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée dans la région, a pour sa part indiqué que les assaillants Codeco ont été repoussés, sans donner de détails sur le bilan.
Par ailleurs, le président congolais Félix Tshisekedi a autorisé l'armée ougandaise à traverser la frontière entre leurs deux pays pour combattre les rebelles ADF, responsable de massacres dans l'est de la République démocratique du Congo et d'attaques en Ouganda. C'est ce qu'a indiqué hier la présidence congolaise. De nouveau, Nathalie Barche.
Le président Tshisekedi a déjà levé l'option d'autoriser aux troupes ougandaises l'entrée sur le territoire congolais pour traquer les terroristes ADF ensemble avec l'armée et les casques bleus, a déclaré un conseiller de la présidence congolaise, soulignant que toutes les procédures doivent être respectées au niveau du Parlement et du commandement des forces armées de la République démocratique du Congo avant que l'armée ougandaise puisse intervenir. Une délégation de notables de la communauté Nandé, majoritaire dans la région de Beni, était associée à la réflexion par le chef de l'État qui, selon le porte-parole de cette délégation, Antipas Mboussa Niamoussi, avait promis d'autoriser formellement ces opérations de traque des ADF par les forces de défense ougandaises sur le sol congolais. À l'origine, les ADF étaient une coalition de groupes armés ougandais, dont le plus important, composé de musulmans opposés au régime du président Yoweri Museveni. Ils sont installés depuis 1995 dans l'Est congolais. Depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par l'organisation État islamique. En mars dernier, les États-Unis ont placé les ADF parmi les groupes terroristes affiliés à cette organisation djihadiste.
La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aissata Tall Sall, a dit espérer hier à l'ouverture d'un sommet Chine-Afrique à Dakar que la Chine apportera son soutien dans la lutte contre l'insécurité au Sahel, où plusieurs pays sont déstabilisés par les activités des groupes djihadistes. S'exprimant à l'issue d'une rencontre avec son homologue chinois Wang Yi, Mme Sall a dit espérer que la Chine, compte tenu de son influence, serait une voix forte dans le combat contre le terrorisme dans la région du Sahel.
Le sommet Chine-Afrique, qui se tiendra jusqu'à mardi, sera centré sur le commerce et la sécurité. Il a lieu après une tournée ce mois-ci du secrétaire d'État américain Anthony Blinken au Kenya, au Nigeria et au Sénégal, dans un contexte de rivalité croissante entre Pékin et Washington. La Chine est le plus important partenaire commercial du continent africain, les échanges directs s'étant élevés à plus de 200 milliards de dollars en 2019, selon l'ambassade chinoise à Dakar.
Le président chinois Xi Jinping s'adressera aux participants ce lundi par liaison vidéo, selon les organisateurs. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, président en exercice de l'Union africaine, et ses homologues égyptiens Abdel Fattah al-Sissi et sud-africain Cyril Ramaphosa, notamment, doivent participer à ce sommet.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le gouvernement israélien a approuvé l'immigration immédiate de 3000 Éthiopiens, dont des membres de familles établies en Israël, craignés notamment pour leur vie en raison des violences dans leur pays. Les précisions de John Linden.
Le cabinet a donné son feu vert à l'unanimité à l'immigration immédiate des 3000 Éthiopiens ayant des parents au premier degré en Israël, a indiqué le bureau du premier ministre Naftali Bennett. Cette mesure permettra d'accueillir des milliers de personnes qui attendaient à Addis Abeba et au Gondar, ville du nord près du Tigré, s'est félicité sur Twitter la ministre de l'Immigration, Nina Tamano-Chata, elle-même native d'Éthiopie. Ces Éthiopiens accueillis au nom du regroupement familial sont des Falas Mora, communauté convertie de force au christianisme et qui affirme descendre des Juifs éthiopiens. Mi-novembre, plusieurs centaines de personnes, dont la ministre Tamano Chata, avaient manifesté à Jérusalem pour demander au gouvernement d'accueillir des Juifs éthiopiens en danger dans leur pays en proie à un conflit civil au Tigré. La communauté éthiopienne en Israël compte plus de 140 000 personnes.
4 jours après le naufrage meurtrier dans la Manche, les participants à une réunion européenne d'urgence à Calais ont convenu d'améliorer la coopération conjointe avec le Royaume-Uni face au trafic migratoire, et ce, en dépit de l'absence des Britanniques sur fond de tensions persistantes entre Londres et Paris. Cette rencontre a eu lieu en réaction au pire drame migratoire survenu dans la mer séparant la France du Royaume-Uni, qui a coûté la vie mercredi à au moins 27 migrants naufragés.
Les îles Fidji vont déployer 50 soldats au sein d'une force de maintien de la paix menée par l'Australie dans les îles Salomon après des jours d'émeutes qui ont ravagé une partie de la capitale Honiara, a déclaré ce lundi le premier ministre fidjien Frank Bainimarama. Les habitants poursuivaient ce lundi le nettoyage d'Honiara, où le quartier chinois a été réduit à un champ de décombres.
Lors de ces émeutes qui ont fait au moins 3 morts, les manifestants ont tenté d'incendier le domicile privé du Premier ministre et le Parlement avant d'être dispersés par la police au moyen de gaz lacrymogènes et de tirs de sommation. Ils réclamaient la démission du Premier ministre, dont le gouvernement est accusé d'être corrompu et d'être redevable à Pékin et à d'autres intérêts étrangers.
La candidate de gauche, Xiomara Castro, épouse de l'ancien président Manuel Zelaya, renversée en 2009 par un coup d'État, prend l'avantage pour la présidence du Honduras face à Nasri Asfura, dauphin du président de droite sortant dans un pays en proie à la violence des trafiquants de drogue qui ont étendu leur corruption jusqu'au plus haut niveau de l'État. Selon le Conseil national électoral, elle a obtenu 53% des voix contre 34% pour son adversaire. La participation électorale, 62%, a été qualifiée d'historique par le CNE, qui a cependant insisté sur le caractère provisoire de ces résultats. La menace de fraude et de troubles plane sur le scrutin et son dépouillement.
Après 5 ans ou 5 mois de pause, les négociateurs sur le nucléaire iranien se retrouvent ce lundi à Vienne dans une atmosphère tendue. Les analystes restent par ailleurs peu optimistes sur les chances de ressusciter rapidement cet accord international conclu en 2015. En juin, les négociateurs s'étaient acquittés sur une note positive, se disant proches d'un accord, mais l'arrivée au pouvoir en Iran d'un président ultra-conservateur, Ibrahim Raisi, a changer la donne. Et maintenant, notre page sport avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
On commence par le football. Sur le continent, on jouait hier les barrages allés de la Coupe de la Confédération.
Oui, et bonne opération des Sud-Africains d'Orlando Pirates qui sont allés battre les Libériens d'Oilers 2-0. Belle performance aussi des Tanzaniens de Simba et des Zambiens de Zanaco, vainqueurs 3-0 respectivement de Red Arrows et de Binga FC du Mali. L'ASEC d'Abidjan et Asofoc d'Accra ont aussi assuré à domicile 2-0 face à l'Interclub d'Angola et la JS Aroua d'Algérie. Même score en faveur des Nigériens de la Gendarmerie nationale qui recevaient les Congolais du Daring Club Motéba Pembe.
Journée difficile pour les clubs congolais, Maniema battu et victoire étriquée pour le TP Mazembe.
Le club de Kindu s'incline à domicile 1-0 devant les Égyptiens de Pyramide. Ça s'annonce compliqué pour le match retour. Pareil pour les Corbeaux de Lumbashi qui ont réalisé le service minimum chez eux face aux Sud-Africains de Marumo Galant. Pour le reste, la renaissance de Bekan, sacrée en 2020, et le club sportif facien triple vainqueur de la compétition ont ramené 1-0-0 de leur déplacement, respectivement contre les Rwandais de l'APR et les Kenyans de Touske.
Le Coton Sport de Garoua se contente aussi d'un match nul en Mauritanie.
Tout à fait. Les Camerounais ont réussi à ramener le nul blanc de Nouakchott devant le FC Ouagadougou. Rassurant avant le match retour à Garoua. Le stade malien a aussi rassuré à domicile 1-0 devant Al Ahly Tripoli. De même pour les Congolais d'Otoho face aux Kenyans de Gomaya et les Léopards d'Eswatini contre les Algériens de la JS Kabylie. Et puis 2-1 pour les Nigériens de Rivers United qui affrontaient les Égyptiens d'El Masri.
Des terrains de foot à ceux du basket avec les qualifications pour le Mondial 2023.
Oui, et ces sélections sont sur la ligne de départ pour 5 places qualificatives pour ce Mondial qui aura lieu en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Mais pour le moment, on jouait les premiers tours de qualification et les 3 premiers de chaque groupe de 4 seront qualifiés pour un second tour. La ville de Luanda a lancé les hostilités et dans la poule C, la Côte d'Ivoire sera bien au second tour. Les vice-champions d'Afrique ont réussi le sans faute. 3 victoires, la dernière 80-69 hier face à la Guinée, qui au passage est aussi qualifiée tout comme l'Angola qui a dominé la Centrafrique 78-48. Sont qualifiés dans le groupe A, toujours basé à Luanda, le Nigeria qui a surclassé l'Ouganda 95-69 après avoir mal démarré le tournoi par une défaite face au Cap-Vert. Le Mali aussi y sera après avoir défait le Cap-Vert 64-59. Et puis la NBA pour finir avec vous Idrissa, les résultats de la nuit.
Disons tout de suite que les Lakers ont battu Pistons et les Lakers ont battu Pistons 110 à 106. Golden State Warriors et LA Clippers 105 et 90. Milwaukee et Indiana 118 et 100.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Un convoi militaire français se rendant à Gao au Mali, déjà bloqué plusieurs jours par des manifestants au Burkina Faso, a de nouveau fait l'objet de contestations pendant le week-end à Téra, dans l'ouest du Niger. Les heurts ont fait, selon le gouvernement, 2 morts. Ils interviennent au lendemain d'une sortie médiatique du président du Niger, magnifiant la coopération entre son pays et la France. De Niamey, notre correspondant, Abdulrazak Idrissa.
Dans la ville de Téra, c'est encore le choc. Et pour la plupart des habitants, il n'y a pas de doute, ce sont les éléments du convoi de l'armée française qui sont les auteurs de la mort des 2 jeunes samedi 27 novembre.
C'est devant moi qui s'est passé. Moi, je suis parmi les gens. Ce n'est pas le soldat de Niger, c'est le soldat français qui nous a tiré. Le petit balle là, il est là, versé partout, on dirait c'est caillou, mais avec l'air kirmozel là, c'est ça qu'ils ont pris pour venir nous tirer. Et puis ils ont dit que ce n'est pas eux, c'est les gendarmes de Niger qui l'ont tiré. C'est faux, ce n'est pas vrai.
Mais pour Gamache Mohamadou, acteur de la société civile, s'il y a un responsable pour ces actes, c'est bien le président de la République, Mohamed Bazoum.
Le seul coupable de cette tuerie, c'est Bazoum Mohamed. Le seul et l'unique responsable de la mort de ces braves jeunes de Téra.
La veille de ces événements, en effet, le chef de l'État nigérien, dans un entretien télévisé, saluait et magnifiait la coopération entre le Niger et la France, comme pour dire qu'il ne serait pas justifié de s'en prendre à ce convoi de son armée qui était sur le point de rentrer sur le territoire nigérien après avoir été bloqué plusieurs jours durant au Burkina Faso voisin.
Nous sommes dans une relation normale avec la France. De tous les pays qui sont engagés à nos côtés dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, la France est le pays qui consent le plus de sacrifices. Les Français, ils ont tué les 7 responsables de l'EIGS. Cette organisation s'est affaiblie. Nous le devons à la France, nous ne le devons pas à un autre pays. Ils n'étaient pas obligés de le faire, ils le font. Et nos services de renseignement à nous, en tout cas, qui nous permettent d'arrêter beaucoup de terroristes avant qu'ils passent à l'acte. Nous le faisons grâce à la coopération avec les services de renseignement français et les moyens de la technologie que les services français mettent à notre disposition. Nous ne sommes pas ingrats pour ne pas reconnaître cela. Parce qu'ils n'étaient pas obligés de le faire, ils peuvent se comporter comme les autres pays. C'est un pays avec lequel nous avons une relation particulière, que nous assumons. Je n'éprouve aucun complexe à revendiquer mon amitié avec la France. Ceux qui nous critiquent pour ce que nous faisons comme ça ignorent tout simplement de quoi il s'agit. Et quand vous êtes critiqué par quelqu'un qui ne sait pas ce que vous faites, vous le traitez avec le sourire.
Abdulrazak Idrissa pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Mali, la sortie hier de l'imam Mahmoud Diko, silencieux depuis la chute du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, était très attendue depuis son annonce en milieu de semaine dernière. Si le communiqué annonçant cette sortie disait qu'il s'agissait de prier pour le Mali, de nombreux Maliens pensaient que l'imam allait en dire plus. En effet, hier, devant ses partisans, Mahmoud Diko a fait le tour de l'actualité nationale. Compte rendu de notre correspondant à Bamako, Mohamed Danyoko.
Hier dimanche, dans l'après-midi, ils étaient plus d'un millier à répondre à l'appel de l'imam Mahmoud Diko. C'est lui qui, selon lui, avait regagné la mosquée depuis le coup d'État qui a renversé le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta, a fait cette sortie pour, dit-il, prier pour le Mali. Il a profité de l'occasion pour demander à la CEDEAO et à la communauté internationale plus de clémence en faveur du Mali, qui se trouve dans une situation difficile.
À la communauté internationale, au pays Zambie, singulièrement au pays voisin, les frères, ceux surtout de la CEDEAO. Demandez leur indulgence, leur compréhension et leur accompagnement.
Face à l'escalade de tensions entre les autorités de la transition et certains partenaires de longue date, l'imam se fera porte-parole du peuple malien pour reconnaître leurs sacrifices tout en rappelant la souveraineté du Mali.
Leur accompagnement n'a pas fait défaut. Non. Le peuple malien est un peuple reconnaissant. Nous ne sommes pas un peuple ingrat. Non. Certes, nous ne sommes pas un peuple soumis. Mais on n'est pas ingrat.
Si pour plus d'inclusivité, les dates des concertations nationales de la Refondation ont été décalées pour essayer de convaincre les réticents, l'imam a appelé à une union sacrée pour sortir le pays de la crise. Un message apprécié par les nombreux participants, Djibril Tangara, ancien ministre sous ATT.
Bon, je retiens que l'imam a envoyé un message de sagesse, de regroupement, de pardon. Et surtout un message d'intelligence, un message patriotique. J'ai bien noté l'esprit patriotique, l'esprit de regroupement, l'esprit consensuel de l'image. À entendre l'imam, je sens vraiment mon mentor, le président Amadou Mandoué. Et c'est un message de rassemblement.
Occasion également pour lui de clarifier, selon ses mots, certaines contre-vérités sur ses relations avec les différentes autorités. Il a enfin lancé un appel au dépassement de soi pour l'intérêt général du Mali. Mohamed Danyoko, VOA, Bamako.
Restez branchés 24h sur 24 sur VOA Afrique à Bamako, au Mali, sur 102.0 FM.
Au Tchad, des cas d'insécurité sont déplorés dans les établissements scolaires. Plusieurs enseignants sont agressés par les élèves, soit verbalement, soit avec des armes blanches ou armes à feu ces derniers temps, dans les salles de classe. Une situation qui risque de jouer sur le calendrier scolaire. André Kotmajingar, notre correspondant à N'Djamena, fait le point.
Un mois seulement après la rentrée des classes, près de 5 cas d'agression physique et verbale, des enseignants ont été signalés à travers le pays. À N'Djamena, un surveillant d'une école privée a été mortellement poignardé par son élève et un proviseur d'un lycée public blessé alors qu'il était en activité. Le secrétaire général du syndicat des enseignants du Tchad, Blaise Ngartoïde, impute la responsabilité aux parents qui, selon lui, ne donnent pas une bonne éducation de base à leur progéniture.
Les parents, il y a certains qui ont carrément des mépris pour les autres. Quand le parent même a des mépris pour les enseignants, l'enfant naturellement copie de ce que les parents disent. Mais allez-y comprendre. Le pays est foutu et il faut le refonder. Cette insécurité-là, si ça continue, alors nous allons nous faire entendre par d'autres actions.
Blaise Ngartoïde estime par ailleurs que certains enseignants sont eux-mêmes responsables de leur situation.
L'enseignant ne peut pas demander à un élève le mégot de sa cigarette. L'enseignant ne peut pas demander aussi à un élève, écoute, donne-moi une casse de blé. Mais ça se fait et ça se vérifie, malheureusement.
La communauté parentale se dit désemparée et très inquiète de ce regain de violence en milieu scolaire.
C'est pas seulement l'enfant qui doit être corrigé, même le père de l'enfant. L'État est capable, il a édité des lois et des règlements. Mais pourquoi il ne les applique pas?
Bamaï Mamadou, président de l'association des parents d'élèves du Tchad, pour lui, le problème est plutôt politique.
Il y a les parents qui sont impunis et donc leurs enfants aussi peuvent causer des cas punissables, mais ils vont rester toujours impunis. Et ces gens-là, on n'arrive pas à les doigter. Vous le voulez ou vous ne voulez pas, c'est un problème politique dans notre pays. Il faut qu'on ait des responsables politiques à qui on peut demander le compte.
Pour Jim Rassam Thales, enseignant-chercheur et spécialiste en orientation scolaire, plusieurs facteurs peuvent expliquer la résurgence de la violence exercée contre les enseignants.
D'abord, le manque de suivi et d'orientation des enfants. Demander de temps en temps au niveau de l'administration quel est le comportement de l'enfant au niveau de l'école, parce qu'il y a des enfants qui ont un comportement A à la maison et à l'école ils ont un comportement B. Il y a aussi une sorte d'effet boule de neige. Par exemple, au niveau de la ville de N'Djamena, ça a d'abord commencé par le complexe scolaire Toumaï et donc les élèves, par exemple, du lycée La Liberté, ils pensent que l'une des solutions pour la revendication de leurs problèmes, c'est aussi de s'en prendre à leurs anciens.
Jim Rassam Thales relève également que la nouvelle technologie et la création de certaines écoles privées qui visent l'aspect pécuniaire et non pédagogique, ainsi que le manque d'un acte officiel émanant des autorités de tutelle pour sanctionner connaît sévèrement. Les auteurs contribuent activement à cette pratique. Contacté, le ministre de l'Éducation nationale a déclaré qu'une réunion d'urgence s'est tenue le week-end avec toutes ses directions techniques pour examiner ce problème. Il informe que son département, celui de la justice et le ministère en charge de la sécurité publique sont en train de réfléchir pour sortir un texte conjoint afin de gérer la violence en milieu scolaire à l'avenir et qu'il va se prononcer au moment opportun. André Kodouma Dingar Njamena pour VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive sur VOA Afrique, Claire Morin-Gibourg avec vous. Des chefs d'État africains ont organisé jeudi dernier en RDC une conférence sur la masculinité positive pour tenter de mettre fin aux violences basées sur le genre en Afrique. Les participants ont décidé d'encourager le leadership politique et économique féminin, de lutter contre l'impunité des violences faites aux femmes et ont appelé les hommes à être des modèles pour les garçons. Que pensez-vous de cette conférence et ses recommandations? Pour participer, laissez-nous vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique ou appelez-nous en direct au 001 202 205 26 33. À votre avis, c'est tous les jours à 18h05 temps universel sur VOA Afrique.
Au Gabon, l'heure est à la vulgarisation du nouveau code civil qui renforce la protection de la femme sur le plan juridique. Le texte, qui interdit toute forme de violence faite aux femmes et permet entre autres le divorce par consentement mutuel entre époux, ne passe pas encore au sein d'une bonne partie de l'opinion, nous dit notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Bien que déjà adopté par le Parlement gabonais, la pertinence du nouveau code civil se heurte encore à des pesanteurs culturelles. Pour Claudine Oyan, une fille mère, le texte réduit le pouvoir de l'homme dans un ménage.
Si l'homme est là, c'est parce que d'abord au départ c'est un chef de famille. Et sans ses lois, dans une maison, comme dans la vie quotidienne, on a besoin de lui quoi. Sans ses lois, on va à la dérive en fait.
Comme Claudine, quelques leaders d'opinion estiment que l'ensemble de ces lois qui consacrent l'égalité entre l'homme et la femme risque de détruire la cellule familiale.
L'écosystème familial ne mérite pas d'être dérangé.
Pasteur Gaspard Obian, responsable d'une église évangélique, s'interroge sur le cas du divorce par consentement mutuel, désormais inscrit dans la loi révisée.
Puisque je ne serai plus chef, ni même je n'ai plus le droit de décider du lieu d'habitation, c'est en commun. Maintenant, si le commun ne s'accorde pas, qui va trancher? Nous ne comprenons pas cette confusion qui veut s'installer entre l'égalité en droit et l'égalité de rôle.
C'est bien pour lever les différents équivoques du texte querellé que le gouvernement et plusieurs associations féminines ont entrepris une mission de pédagogie à l'échelle nationale. PPC Oguligende de l'ONG Malachi.
Nous allons faire un travail de proximité aussi bien auprès des femmes que des institutions, des partenaires techniques et financiers du Parlement et du gouvernement. Donc que la société civile soit pleinement associés pour pouvoir faire ce travail de proximité afin d'atteindre les résultats escomptés pour toutes les parties prenantes.
Les défenseurs du programme Gabon Égalité sont formels. Le débat actuel est structuré autour de la notion de partenariat dans un couple. Micheline Otunga, membre de la société civile.
Non, juste rappeler que la femme a une place prépondérante auprès de son partenaire, auprès de l'homme, pour pouvoir œuvrer au développement familial, ce développement familial qui est prépondérant pour le développement social et pour l'émancipation de la société.
La vulgarisation du nouveau code civil devra permettre aux justiciables de mieux cerner son articulation en matière de promotion des droits reconnus aux femmes et de sanction des violences multiformes dont elles sont parfois victimes. Libreville, Ismaël Obiangze pour VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia et Michel Joseph, qui étaient également à la mise en onde. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.